Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. Testostérore, c'est la nouvelle bande dessinée de Luce parue le 11 octobre chez Albin Michel. L'auteur-dessinateur était de passage à Rennes et à cette occasion, il m'a accordé une belle interview que je vous propose de découvrir en plusieurs épisodes. Voici la première partie de l'interview pour le nombril de Vénus, accompagné par la voix sublime de Lingua Ignota, choix musical de Luce. Testostérore sur Canal B, c'est maintenant. Une interview fleuve, comme on dit. Merci.
On va essayer.
Bonjour, Luce.
Bonjour, pour l'interview fleuve ou rivière, on ne sait pas, ou rue, une interview rue, en fait.
En tout cas, c'est drôlement chouette de nous accorder une interview pour Canal B.
Ah bah, c'est moi, je suis ravi. Ça fait très longtemps que je n'étais pas venu dans le coin et que je n'avais pas fait une interview à Canal B. Je crois que j'en ai fait une à 20 ans, peut-être. Ouais, je ne sais plus. En tout cas, je suis content d'être là, en fait. Je suis content d'être à Rennes, pour juste voir quelques lectrices, quelques lecteurs, faire quelques dédicaces, même si certains, je les verrai en visio, mais c'est pas grave. On a l'habitude maintenant avec le Covid de se voir comme ça, de voir les gens qu'on aime en visio, donc c'est une manière de faire. C'est déjà pas mal. Mmh. En tout cas, je suis content d'être ailleurs que chez les médias parisiens, en tout cas, ça c'est clair.
Eh bien, ici, aujourd'hui, vous êtes venu aussi parce que votre bande dessinée vient de sortir le 11 octobre, c'est Testostérore.
Oui, c'est ça, ouais, c'est une bande dessinée qui fait un kilo. J'aime bien dire ça parce que, en fait, quand on dessine sur des pages, on oublie complètement même le nombre de pages, on oublie complètement le travail. On est tellement dans le travail qu'on oublie le travail. Et quand on a un bouquin en main, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quelque chose qui sort de vous. C'est un travail accompli presque par quelqu'un d'autre. Et peut-être que même finalement, c'est un travail accompli par quelqu'un d'autre. Oui et non, parce que là, peut-être que je me retrouve encore plus que dans d'autres livres que j'ai fait récemment. Aussi parce que je me reconnais un auteur satirique, un auteur comique, c'est-à-dire que je sais pas, j'ai beaucoup fait de livres, un peu dramatiques avec une touche comique, et là c'est complètement le contraire, c'est un roman comique. C'est-à-dire un roman graphique comique, c'est une comédie graphique, on peut dire ça aussi, comédie graphique avec une touche tragique. Ouais, ça me reconnecte avec ce que j'ai toujours été un peu comme dessinateur, c'est-à-dire un dessinateur qui raconte des histoires et qui dit des conneries aussi. Voilà.
Cette bande dessinée qui vient de paraître donc chez Albin Michel est une presque bande dessinée un peu prémonitoire, non? Cette histoire d'épidémie, vous avez pensé quand même avant que nous vivions la nôtre de Covid?
Oui, c'est une histoire d'épidémie d'un homme qui, de tout un, pas plus qu'un homme, c'est une histoire d'un monde, notre monde qui tout d'un coup serait sujet à une épidémie qui ferait baisser la testostérone des hommes. Et c'est une histoire que j'avais en tête avant le Covid. Effectivement, les éléments que j'ai croisés pendant le Covid ont été finalement des éléments scénaristiques que j'ai pu mettre dans le livre, que ce soit d'un côté l'hystérie complotiste, la panique, certaines absurdités que l'on a pu connaître dans la tête des gens, de vos voisins, de vous-même d'ailleurs peut-être.
Comme les courses par exemple.
Comme les courses, comme le fait d'être tout d'un coup complètement paniqué au point qu'il n'y a plus du tout de PQ dans les hypermarchés. Moi j'ai croisé un mec qui faisait, c'était plutôt un mal alpha et qui pris de panique, qui a fait pour la première fois de sa vie des courses. En tout cas pour la première fois de sa vie d'homme en couple et avec un enfant des courses. Et qui a ramené tout d'un coup que des choses absolument essentielles dans sa vision de la famille, c'est-à-dire sa vision de la famille très auto-centrée sur lui-même, à savoir des cubis de rosée, du saucisson, des chips et de la purée en poudre. Et je me suis dit, merde, alors ça, j'y avais pas pensé. Et je vais le mettre dans mon bouquin. Je dirais pas merci le Covid, hein, parce que personne n'a envie de remercier le Covid. Mais je remercie en tout cas ce personnage qui était un homme que je connais et qui est devenu finalement un personnage de ma bande dessinée. Mais il y a aussi un truc, peut-être que c'est un bouquin prémonitoire sur peut-être autre chose, c'est que quand je l'ai fait, je me suis dit, je vais travailler sur la masculinité, je vais travailler sur le mythe de la virilité, quelque chose qui m'intéresse, mais la déconstruction des hommes, tout ça, le temps que je me mette en route pour le faire, sachant que j'étais en train de travailler sur Vernon Subutex, tome 1, tome 2, donc en tout 760 pages, donc il y avait pas mal de boulot, et je me suis dit, bon ben, le temps de sortir le bouquin, le sujet va être obsolète, le sujet ne va plus être au cœur des débats, peut-être que c'est bon, on aura suffisamment avancé, il y aurait eu suffisamment de bouquins qui ont été faits par les hommes, sur les hommes. Et en fait, non, pas tant que ça. Pas du tout, même. Enfin, il y a des podcasts, il y a des one-man shows qui sont faits par des hommes qui déconstruisent en tout cas le mythe de la virilité. Ça existe. Mais finalement, les étals de librairie sur l'égalité homme-femme, par exemple, il est toujours, pas monopolisé, parce que c'est pas une volonté de monopoliser. Ce sont beaucoup les femmes qui font les bouquins sur l'égalité homme-femme, et rarement les hommes. Il y a quand même un petit
qu'est-ce
problème.
Qu'est-ce que vous entendez par là?
Et ben, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a quand même un petit problème. C'est comme si l'égalité homme-femme était devenue une espèce de charge militante laissée aux femmes par les hommes. Genre, ça ne veut pas dire que des hommes ne se sentent pas impliqués, mais moi j'ai toujours eu du mal à comprendre que les hommes ne comprennent pas que le combat féministe était un combat qui les concerne. Donc qui était un combat dont on devait s'emparer aussi. J'ai pas l'impression que c'est encore vraiment le cas. Comme si, genre, allez-y les filles, oui, je suis avec vous, je suis d'accord avec vous, mais c'est vous qui allez lutter à ma place. Et je dirais que je suis pas exempt de cette...
De cette première strate de pensée,
exactement, parce que au bout du compte, quand j'y réfléchis, si j'y réfléchis bien, moi j'ai été très proche des fémènes, mais aussi dans un peu comme ce qu'on appelle un fémène man, un homme de Londres, moi qui les aide à faire des dessins, etc., à faire des trucs. Mais quelque part, même aussi dans ma tête, il y avait un truc genre, c'est cool, vous faites le boulot qu'il faut faire, mais quelque part, moi je vous aide, mais je vous aide finalement. Qu'est-ce que je fais moi dans mon espace militant pour vous aider? Alors effectivement, je peux faire des dessins, dessiner des logos féminins sur les seins des copines, etc. Ça, je pouvais le faire. Mais peut-être que ça suffit pas aussi d'être derrière les copines féministes. Je pense qu'il doit y avoir un certain épuisement, même je le constate, un certain épuisement chez les meufs féministes à régulièrement sur les réseaux sociaux, dans les livres, dans les blogs, sur les sites, de répéter sempiternellement qu'il y a un problème avec le patriarcat, par exemple, ou qu'il y a un problème avec une espèce de backlash, par exemple, qu'il peut y avoir en ce moment, c'est après MeToo. Et je pense que c'est devenu usant de voir que les choses changent aussi peu du côté des hommes, d'une majorité des hommes, voire même qu'au contraire, il y a une espèce d'étrange victimisation de certains hommes, ou qu'il y a un langage tout d'un coup victimaire de certains hommes plutôt masculinistes qui apparaît pour dire c'est à notre tour d'être victime, c'est à notre tour de se réclamer en tout cas de la victimisation, c'est à notre tour de dire on est victime de l'égalité homme-femme. I heard a rumbling in the sky. Thank you.
Thank you.
Vous êtes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus avec Luce, première partie de son interview pour Testostérore.
Mais franchement, ça, c'est pas quelque chose qui est aussi surprenante. Les hommes, ils ont aussi cette capacité à tourner les choses à leur faveur au moment opportun.
Ah bah ça, je sais pas trop. C'est pareil, les hommes, on peut pas non plus complètement essentialiser, mais les hommes qui ont une voix médiatique, on les entend très fortement. Et c'est le truc qui me fait vraiment chier, c'est que les hommes qui parlent de la masculinité, parce que je pense que c'est un vrai débat, et c'est le prochain débat après le féminisme, c'est le masculisme, pas forcément le masculinisme, comment on parle du masculin. Quelle place le masculin a dans notre société qui est en train d'évoluer, voilà. Et malheureusement, ceux qui pensent cette place du masculin, ce sont les masculinistes, c'est finalement au bout du compte l'extrême droite. Comme si, finalement, à gauche, il y avait ce truc, quelque part, de la bienveillance qui est « Allez-y, les filles, on est avec vous, super », mais il n'y a pas de... Ça s'empare pas du sujet. Je ne dis pas que... Je n'ai pas fait un livre étendard. Je ne suis pas un porte-drapeau. J'aime pas les drapeaux. Je n'ai jamais
aimé
les drapeaux.
Se marre quand même avec vous.
Oui. Moi, ce que je propose, c'est quand même une espèce de... Une grande caricature de la panique des hommes actuels. Aussi en interrogeant peut-être qu'est-ce qui reste de la virilité quand on enlève l'hormone de la testostérone. Qu'est-ce qui reste de la virilité quand on se débarrasse de l'alibi masculin. Voilà. L'alibi masculin étant, j'ai des hormones, je suis comme ci, je suis comme ça, c'est comme ça, ça a toujours été... j'ai des pulsions, comme tous les hommes, je viens de Mars, et vous êtes Vénus, patati patata, ce truc-là. Et il fallait que je fasse une caricature de ça. Il fallait que j'aille loin dans la caricature, il fallait que j'aille loin dans le comique, peut-être aussi pour que on puise là-dedans quelque chose d'un peu proche. C'est-à-dire, moi, je me suis rendu compte quand j'étais gamin, moi, je caricaturais les gens de ma famille et je faisais quasiment exactement le même boulot que maintenant. Sauf que c'était pas un boulot, c'était juste pour éviter de me faire chier dans les dîners de famille. Et je dessinais donc les hommes qui étaient à l'apéritif en train de cloper et de bouffer des chips. Et les femmes qui étaient en train de ranger, en train de mais cloper aussi, hein, parce que moi je suis dans les années 70, 80, donc les femmes clopaient. Enfin, je veux dire, ça clope en cuisine. Et puis, il y a une espèce de séparation des gens comme une espèce de mur invisible. Et ce mur invisible, je crois que j'ai commencé à le dessiner quand j'étais petit. Je m'étais rendu compte petit que quand on dessinait les gens et qu'on mettait dans leur bouche ce qu'ils avaient dit, souvent ils disaient mais moi j'ai pas dit ça. C'est pas moi, j'ai pas dit ça. Mais sauf que autour, les gens savent que c'est vraiment lui, que c'est vraiment lui ou elle qui a dit cette chose. C'est-à-dire, c'est un peu ce truc-là. C'est-à-dire, ce bouquin, il est aussi dans une certaine manière un moyen de témoigner de manière extravagante d'une société qui est aussi dans un grand théâtre, qui est aussi drapée dans énormément de fantasmes. Et en allant loin dans la caricature, on peut y déceler peut-être des exemples de caricatures qui sont autour de nous, voilà. Ou des exemples de caricatures qui sont en nous aussi. Aussi parce que là-dedans, je parle des hommes, mais je parle aussi un petit peu des femmes.
Ah oui, non, mais c'est trop bien. Il y a effectivement toute une part, et on va découvrir que les femmes, elles sont absolument volontaires de prendre une place possible. Et lorsque cela est possible sur un laps de temps dans le livre, on voit que la douceur, il y a une certaine façon, comment dire, très respectueuse dans la société est possible, même si, voilà, on peut encore casser un ongle ou que sais-je, parce qu'on démarre dans le déménagement ou quoi. Mais c'est quelque chose de plus doux, c'est-à-dire qu'en enlevant cette part de testostérone de cette épidémie qui est la cause de cela, eh bien, on découvre un certain apaisement.
Mais, oui, en fait, moi, je me suis aussi inspiré d'un truc assez simple. Je me suis inspiré de ce qui s'est passé pendant la guerre de 14. C'est-à-dire que pendant la guerre de 14, il y a un truc, c'est que alors qu'on sortait d'un 19e siècle où encore les répartitions, en tout cas de l'ordre du travail, étaient quand même encore très genrées. Tout d'un coup, la guerre de 14, les hommes au front, les femmes ont été obligées de faire l'intendance de l'arrière. Et une fois que la guerre est finie, que les hommes sont revenus, et pour la plupart blessés, déprimés, détruits par la guerre, elles sont restées au travail. parce que elles n'ont plus voulu quitter l'espace. Et quelque part, il y a eu des débats sur le fait, renvoyons dans les années 20, renvoyons les femmes au travail. Sauf qu'il y avait quelque chose qui était déjà passé, en fait. Mmh. C'est pour ça qu'il y a eu une espèce de moment aussi, ça a été aussi un moment charnière, c'est-à-dire que bah, si les femmes, finalement, ont été, finalement, c'est une des premières charges mentales générales qui a été faite au moment de la guerre de 14, c'est-à-dire tout à coup, bah, il a fallu vraiment s'occuper du pays. Et elles ont commencé à rentrer dans le monde, à faire exploser finalement la frontière qui était entre eux et les hommes. Finalement, elles ont fait exploser cette frontière patriarcale, déjà. Et là, je me suis dit, c'était marrant d'imaginer dans d'autres circonstances que tout d'un coup, effectivement, les hommes... Parce que c'est vrai, si on perd sa testostérone de manière brutale, on est déprimé, on a des idées suicidaires, on perd de la force musculaire, etc., etc. Et donc, dans mon scénario, effectivement, les hommes sont moins capables, moins compétents d'assurer, en tout cas, ce qu'ils imaginaient qu'ils étaient en train d'assurer avant, et en tout cas d'assurer leur place dans la société. Et du coup... tout d'un coup, charge mentale presque par souci, pas forcément par souci de maintenir la société dans l'état dans lequel elle était avant, mais aussi parce qu'il faut bien remplacer les hommes qui sont plus compétents. Les femmes reprennent une autre place. Ponctuellement, le temps qu'ils se remettent en selle, qu'ils puissent trouver le moral. Et finalement, tout d'un coup, paf. La société devient un peu plus calme, un peu plus apaisée. Aussi parce que les hommes perdent un petit peu leur testostérone. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais tout d'un coup...
C'est une idée.
Peut-être tout d'un coup, il y a moins de gens qui disent espèce d'enculé quand ils sont en train de conduire une voiture. Tout d'un coup, il y a moins d'esprit de compétition. Il y a moins cette bagarre intrasexuelle qui existe, à mon avis, qui existe entre les hommes, que l'on fait passer pour de la compétence économique ou de l'histoire managériale, ou etc. Tout d'un coup, il y a un moment donné, vers la fin du livre, c'est pas forcément un grand... je dévoile pas forcément la fin, mais à un moment donné, il y a un débat, c'est-à-dire qu'il y a un débat entre deux hommes politiques ou deux débatteurs, un homme et une femme, et lui se désole du fait que la police est tout d'un coup devenue un métier du care. Et moi, j'aime bien cette idée-là. J'aime bien l'idée que, tout d'un coup, s'occuper de la société, y compris de la sécurité, rentre dans un autre paradigme qui serait non pas un paradigme de la force et de la puissance, mais plutôt un paradigme du care, qui n'est pas forcément plus féminin que ça. Mais si les femmes s'occupent du care, c'est aussi parce qu'on les a poussées à travailler sur ce domaine-là. Et tout d'un coup, d'imaginer que, finalement, il y a un petit peu moins d'obsession, en tout cas, liée à la puissance, liée à la force, liée à la compétition, et que peut-être ça monte, qui peut aller vers quelque chose de mieux. Ou pas, parce que ça, c'est la fin du livre.
Oui.
C'est la fin du livre, et la fin, elle est ouverte. Et donc, je sais pas, peut-être qu'il y aura un tome 2 qui va s'appeler, je sais pas, Progestéror, par exemple.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.
C'était la première partie de l'interview de Luce, auteur et dessinateur, pour la sortie de sa bande dessinée Testostérore. Découvrez la deuxième partie de cette interview la semaine prochaine sur Canal B. L'émission Le Nombril de Vénus est aussi disponible en podcast sur canalb.fr. Allez, bisous, bye! My teeth were
Bitches are...